On reparle d'intelligence artificielle sur Piano Jazz Concept avec pas une mésaventure, mais disons une péripétie, enfin quelque chose qui m'est arrivé récemment que je vais vous raconter, et qui me fait un peu me questionner sur précisément le rôle de l'humain dans son rapport à l'IA, et plus précisément ce que je vois venir qui serait le piège de la caution technique, au sens du technicien, ou le piège de la caution humaine. Alors, je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Avant de commencer, je fais une toute petite mise au point par rapport à la dernière vidéo. Vous savez, où j'ai fait ce que je fais très rarement, mais j'ai laissé le bêtisier. Je fais cette vidéo pour conclure l'analyse sur, comme d'habitude, My Way, tout ça. Et donc, on a fait Hervé Villard, parce que vous m'en aviez parlé, j'ai laissé le bêtisier. Et ça a suscité des commentaires. Alors beaucoup de gens, on garde le sens de l'humour, et beaucoup de gens ont été totalement indignés, vraiment que c'était du mépris, un manque de respect. Alors, je vais quand même dire quelque chose par rapport à ça, parce que quand je fais des vidéos critiques, elles sont argumentées. C'est-à-dire que je ne me suis jamais empêché de critiquer, que ce soit Billie Eilish, Céline Dion, Sofiane Pamart, enfin, vous connaissez la maison. Je m'empêche pas de dire ce que je pense. C'est fait en général, pas pour aller faire du buzz ou pour dire du mal, mais parce qu'il y a soit parce qu'on m'en parle, soit parce qu'il y a un sujet de société, je pense, qui mérite qu'on y réfléchisse, et parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'écho dans la société. Et je trouve qu'on a besoin de sortir de cette espèce de consensus intellectuel, et que c'est très bien qu'il y ait des voix discordantes, et que pour s'aider à penser, c'est bien qu'il y ait des gens comme moi, et plein d'autres, hein, moi je ne détiens pas la vérité, mais que l'auditeur ou les gens qui ne sont pas forcément des experts puissent se dire « Ah bah tiens, voilà quelqu'un, j'ai l'impression qu'il sait à peu près de quoi il parle, et tiens, c'est marrant, lui il dit ça de tel sujet de société. » Voilà, ça permet de penser en ayant voilà, des informations contradictoires, et je trouve que c'est très sain dans un débat d'idées. Les artistes, j'allais dire auxquels je me suis attaqué, j'ai attaqué personne, mais disons les sujets que j'ai abordés, franchement, je n'ai jamais tiré sur l'ambulance. C'est-à-dire que, vous connaissez l'expression, hein, c'est-à-dire que j'ai jamais, quand je parlais de Pamart et qu'on sort, c'est des gens, ils ne savent même pas qui je suis, ils ne connaissent pas mon nom, ils savent pas, ils n'ont même pas vu mon visage, ces gens, ils vivent dans une autre sphère, certains sont aux États-Unis, je parle même pas de Céline Dion, je suis un sous-microbe, je suis un pré-cloporte par rapport à son niveau de notoriété. Et ça l'empêche pas de revenir, et elle reviendra en playback, etc., etc. On connaît la chanson. Mais ce que je veux dire, idem pour Billie Eilish et les autres, voilà. Et la seule fois où je me suis empêché d'aller un petit peu plus loin, c'était pour l'affaire Nala, quand il y a eu cette histoire avec sa vidéo sur l'histoire du jazz, où là, carrément, elle m'a écrit en me disant « Ah, mais j'ai mal au ventre, tu vas faire des vues sur mon dos, te rends pas compte comme je souffre. » Et là, vous voyez, cette histoire de « Tiens, est-ce qu'il faut... » Le respect des femmes. Et je me suis dit, bon, manifestement, elle est pas. Enfin, cela dit, ça aurait été un homme, ça aurait été pareil. Je me suis dit, bon, tout le monde est. A priori, c'est ce qu'elle me disait. Après, bon, la réalité était beaucoup plus nuancée que ça. J'en reparlerai un jour. Mais je me suis dit, bon, là, clairement, c'est faire du buzz et aller gratter sur un truc qui est. C'est pas le moment. Voilà. Donc, je suis passé à autre chose. Donc, pourquoi je dis ça en préambule? Parce que, bah, Hervé Villard. J'ai fait cette conclusion, c'était humoristique, et c'était, moi, ça me faisait rire parce que c'est pas, lui me faisait rire, c'est vrai, je mentirais si je disais que c'est vrai que pour quelqu'un de ma génération, par rapport à ma culture, ayant, si vous connaissez un peu la chaîne, et surtout après avoir écouté Sinatra finir avec Villard et nous, Capri, c'est fini, c'est vrai que c'était tellement, la comparaison était tellement lunaire que ça m'a fait rire parce que c'était improbable, voilà. Et c'est ça qui me faisait rire dans le montage de la vidéo. Mais ça n'était pas une vidéo à charge pour me moquer de Villard. Parce que si je devais un jour le critiquer, au sens de la critique noble, argumentée, je le ferais pas en riant bêtement. Je le ferais en montrant, comme j'ai toujours fait. D'ailleurs, cette vidéo, je lui rends plutôt hommage, puisque je le défends en disant que non, pour ce qui me concerne, il n'a pas plagié. Mais voilà, j'ai vu que ce petit sarcasme, cette moquerie, en fait, c'était plutôt l'envie de partager avec vous un truc qui m'avait fait rire. Et beaucoup de gens qui déboulaient sur la chaîne, qui étaient des fans, ont dit, alors qu'est-ce que c'est que ce mec qui se fout de la gueule de notre idole? Et je peux comprendre, c'était pas le but. Alors qu'est-ce qui va se passer pour faire très court? Je pense que je vais enlever ce bêtisier qui, bon, franchement, c'était pas. En plus, la vidéo fait 5 minutes, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant sur la chaîne. C'était plus pour conclure cette étude. Et je la remettrai sur Vimeo, là où j'héberge déjà les vidéos que je fais pour les bases de l'harmonisation, les bases de l'improvisation qui sont en train d'arriver. Et donc ceux qui veulent voir cette vidéo, elle sera toujours disponible. Et puis ceux qui déboulent, voilà, ne... c'est presque de l'humour. En fait, je l'ai fait ça comme dans un esprit de partage, en me disant ceux qui suivent la chaîne et qui ont vu les vidéos précédentes vont comprendre pourquoi ça me fait rire. Sauf que j'oublie que la chaîne grandit, qu'on a passé les 91 000 abonnés et qu'il y a des gens qui déboulent, qui ne me connaissent pas et qui prennent ça, qui prennent cette première... Je l'ai vu parce que parfois, c'est les premiers commentaires. Et donc, ils prennent cette première vidéo en pleine figure et ils me disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui se fout de Villard, mais il se prend pour qui ?» Alors, c'était pas le but, c'est pas... Je suis plutôt respectueux et même si c'est pas l'artiste que j'écoute et même si c'est pas... je vois qu'il est aimé, il a une longue carrière, il fait de la chanson française, même si c'est pas ce que j'écoute. Et j'aime beaucoup la chanson française, pas forcément celle-là, mais c'est pas du tout mon style de, comment dire, d'aller dans le bashing bête et méchant d'un artiste qui fait une longue carrière, qui est respecté, qui est aimé. Voilà, donc la page est tournée, les fans auront compris et puis les autres auront compris aussi. Alors avançons maintenant, donc le sujet de la vidéo. En préambule, je vous lis, vous allez comprendre, je vous lis un passage de mon essai, auquel l'élève et le maître, aux éditions H&O, disponible. Et donc, si l'on veut s'amuser, blablabla, tout ça, je passe. Selon cette logique, et à moins d'un changement de paradigme politico-économique majeur, on peut conclure que le marché continuera de dicter ses choix et qu'en vertu des principes intrinsèques qui l'animent, les sociétés privées obtiendront gain de cause ou seront encadrées par des dispositifs légaux purement cosmétiques. La question n'est donc pas de savoir si l'IA pourra un jour s'entraîner sur toute œuvre disponible, mais plutôt quand et surtout à quel prix notre patrimoine sera sacrifié. Voilà, c'est une prédiction, une triste prédiction que j'ai faite il y a déjà plus d'un an, il y a 2 ans même, parce que ça j'avais commencé à le rédiger avant. L'avenir nous apprendra si je me trompe ce que je souhaite ardemment ou si les lois algorithmiques tiendront les rênes, mais dans tous les cas, le lecteur, qu'il se sente indigné ou blasé, doit comprendre que la bataille contre l'IA n'aura pas lieu sur le terrain de l'esthétisme, ni même de la technologie. Voilà. Pas que, en tout cas. Voilà, ça c'était en guise d'introduction pour dire qu'il y a plein de pièges ou plein de dangers liés à l'IA. Je vois qu'il y a des vidéastes, des youtubeurs, j'ai vu qu'Aberkan avait fait une vidéo, il y a beaucoup de technophiles qui sont là, l'IA c'est formidable, c'est les Laurent Alexandre et consorts, j'en parle même pas, ce sont les technophiles à tout craint qui, moi, m'effraient personnellement. Je ne mets pas Aberkan et Alexandre dans le même sac, pas du tout, mais j'ai vu que bon, il y a des gens qui font des vidéos sur l'IA. Voilà. Moi, vous savez, je parle beaucoup d'IA générative. Alors, ça va aller assez vite. Un petit rappel historique, déjà, pour comprendre où je veux arriver. Vous savez, à l'époque, j'avais fait une vidéo une interview de Jean-Claude Petit. Ok ? Donc, illustre arrangeur, je vous renvoie vers cette vidéo passionnante qui, tiens, voilà, on parlait de chansons françaises, qui a arrangé pour je ne sais combien d'illustres artistes une vie passionnante, des références. Et alors, pourquoi je parle de Jean-Claude Petit ? Parce que dans la carrière, dans l'histoire de Jean-Claude Petit, il y a, alors je crois que c'est lui, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois bien qu'il est à l'origine de, si c'est pas la création, en tout cas, c'est de la sanctuarisation, de la sacralisation, en tout cas, de l'encadrement légal du statut d'arrangeur à la SACEM. Pourquoi ? Parce que Petit et d'autres, il y a Red, il y a plein d'autres compositeurs arrangeurs de cette génération, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Eh bien, ils racontent un peu tous la même histoire. Il y avait des chanteurs populaires qui composaient, mettons des guillemets, en tout cas qui bricolait un peu à l'amiable, parfois avec des guitares, parfois au piano, parfois c'était juste je chantonne sur un dictaphone ou je fredonne une mélodie, et puis à la fin je dis, bah, quand même, c'est moi qui ai composé, quoi. Donc déjà au niveau de la composition, il y avait derrière un arrangeur qui mettait en forme, et puis indépendamment de cette mise en forme, vous avez des chansons qui, quand on les écoute juste la bande piano-voix ou guitare-voix, vous avez ça chez Brel et son rapport avec François Robert, tout à coup, le statut de l'œuvre avec l'arrangeur, il est mais sublimé, métamorphosé. C'est plus le même morceau. Alors oui, on peut revenir à la racine, mais l'arrangement a fait, si c'est pas tout, on va dire au moins la moitié du succès de l'œuvre. Raison pour laquelle Petit et d'autres, je pense, mais c'est à lui que je pense, je crois pas me tromper, vous me corrigerez en commentaire si vous avez des références historiques précises. On dit, écoutez, non, vraiment, là, il faut que l'arrangeur ait des points. Touche au même titre que le compositeur ou l'interprète, puisque nous sommes responsables du succès de l'œuvre. Et c'était une très bonne chose. Donc voilà, on vient de là, ok ? On vient d'un monde où, en gros, les compositeurs qui étaient un peu à l'amiable, un peu à de l'amateurisme éclairé, à la bougie, avaient besoin de gens compétents pour faire exister leurs œuvres. OK ? Bien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vous disais ? J'ai vécu quelque chose. Alors, je suis, vous savez, au-delà de la chaîne, évidemment, je garde un pied dans le métier, entre la scène, mais aussi un peu de musique de film, on me sollicite pour des projets, accompagner des gens de ci, de là. Et là, j'ai été sollicité récemment pour un projet que je n'ai pas fait. Et quelqu'un qui, a priori, sur le papier, était assez sérieux, bon, je reste toujours ouvert, et en gros, je vais la faire très très courte, mais la personne m'envoie une bande en me disant, écoute, voilà, j'ai écrit ça, et je cherche un arrangeur, c'est sérieux, il y a une production derrière. Et là, j'écoute, et c'était de l'IA. Mais c'est la composition, le son, c'était du Suno, enfin, c'était ce que j'ai déjà pu avoir eu l'occasion d'entendre. Je me mets en contact avec la personne, je dis, mais est-ce que tu m'as envoyé là, c'est toi qui a composé ? Oui, c'est moi qui ai composé. Je dis, mais ce que tu m'as envoyé, c'est de l'IA. Oui, mais alors c'est-à-dire que, et là j'avais l'impression de voir Blanquer à la radio, non mais en fait, enfin, c'est pas exactement ça, parce que j'ai quand même dit ce que je voulais, j'ai mis, bon voilà, donc le mec me la faisait à l'envers, en gros il a tapé un prompt, le logiciel lui sort une œuvre qui était bon, une espèce de daube avec des progressions harmoniques archi convenues, mais ça à la limite, un compositeur pourrait choisir de le faire ou un mauvais compositeur pourrait être victime de cette banalité. Enfin, dans tous les cas, là, manifestement, en lui tirant un peu les vers du nez, puis de toute façon, ça s'entendait à l'enregistrement, c'est pas lui qui avait fait, il avait prompté. Mais qu'est-ce qu'il me demandait en fait ? Il me demandait de m'approprier une œuvre, enfin en tout cas une création qui avait été faite à partir d'un prompt, pour ensuite que moi, je l'orchestre, que je la transforme. Il y avait assez d'argent pour qu'on aille en studio, et pour en faire, alors je n'ai pas, la prétention de dire que je vais faire un chef-d'œuvre, mais c'était évident qu'avec le travail que j'allais faire, l'œuvre, elle partait de là, et elle serait arrivée à un niveau beaucoup plus élevé, par le simple fait qu'on allait mettre des vrais musiciens, et puis qu'on allait, sans doute, j'allais améliorer quelques accords, ajouter quelques tournes rythmiques, peut-être un contre-champ, enfin, j'allais arranger l'œuvre, quoi. Et là, je me suis dit, c'est pour ça que je parlais de Petit et des autres à l'époque, je me dis, mais bon sang, on est en train de revivre exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais du piège de la caution artistique, de la caution humaine, de la caution du technicien, de la caution du musicien compétent, parce qu'en gros, qu'est-ce qui va se passer ? Et je me suis dit, mais donc je vais devoir arranger une œuvre qui a été promptée, mais le gars, en attendant, un, va pouvoir dire qu'il a composé, et de deux, il va pouvoir dire que non, c'est pas de l'IA, ou en tout cas, s'il y a eu de l'IA, ça a vraiment été utilisé à la marge, et vraiment, c'est une œuvre qui a fait intervenir de l'humain. Et il aurait eu raison de le dire, si jamais, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait, je vous donnerai la conclusion de cette histoire. Et donc je me suis dit, mais voilà quelque chose à quoi je n'avais pas pensé, c'est qu'en réalité, on nous dit toujours, vous savez, c'est un peu comme pour ces histoires de fabrication de certains objets, quand on dit Apple, dit bon, c'est fabriqué en Chine, mais conçu aux États-Unis. C'est-à-dire que la loi oblige à dire c'est made in Taiwan, c'est fabriqué en Chine. Avant, c'était pas obligatoire, mais on a dit quand même, faut qu'on ait la provenance, faut qu'on sache d'où viennent les animaux pour ce qu'on mange, d'où viennent les godasses avec lesquelles on marche. Enfin, il faut qu'il y ait une transparence. Et là, je me dis, voilà quelque chose qui va arriver. Et de la même façon, pour filer cette métaphore, cette comparaison avec le marché, parce qu'on s'est habitué à ça, donc on a déjà du recul. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a dit, bah après tout, à partir du moment où on garde un pourcentage minimum de fabrication sur le territoire, par exemple pour les chaînes de production, c'est l'assemblage, c'est-à-dire que à partir du moment où on assemble une partie des moteurs, alors je sais pas, je crois que les Allemands faisaient ça, ou peut-être dans le luxe, on va dire, non, c'est bon, c'est pas 100%, c'est vrai qu'on fait intervenir des fournisseurs et on travaille avec une partie des industries asiatiques, mais quand même, au final, c'est nous qui le faisons, et ça permet de dire Made in France, ou Made in Germany, j'en sais rien. Donc, est-ce que c'est du 100%, est-ce que c'est du 50%? Je suis pas un expert en commerce, mais on voit bien qu'il peut y avoir quand même un arrangement avec la réalité de la fabrication. Est-ce que c'est vraiment du 100%? Et puis, après, les gens vous diront, quand on leur parle, oui, mais tu sais, j'avais pas le choix. Si moi, je veux faire du 100% français, je mets la clé sous la porte parce que la concurrence n'est pas tenable. Ce qui est vrai, on peut les comprendre. Mais de la même façon, c'est un discours sur le projet qu'on entendra dans la bouche de certains compositeurs qui diront, bah, attends, tu comprends, moi, si j'avais pas utilisé l'IA, je suis désolé, c'était pas possible autrement. Alors, on parle pas exactement la même chose. Parce que là, on n'est pas en train de parler de chanteurs passionnés qui ne sont pas très compétents. On est en train de parler de gens, là, le cran d'après, dans cet effondrement que je ne cesse de décrire depuis plusieurs années maintenant. Là, on est en train de parler de gens qui ne peuvent en avoir aucune compétence, taper un prompt, sortir une musique et passer ça à un professionnel. Dire, bon, écoute, tiens, fais-moi quelque chose. Et puis quand même, hein, c'est moi qui ai composé, parce que c'est moi qui ai eu l'idée. Parce que les gens ont l'impression que à partir du moment où ils ont eu une idée, ils ont eu du génie, où ils ont composé, ils ont créé. Je ferai une vidéo là-dessus. Faut que les gens arrêtent de s'illusionner avec ça. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Je vois ça, encore une fois, j'ai dit que l'IA et l'IA générative, je vois ça d'un très mauvais œil. J'avais pas anticipé ce truc-là. Et je vois bien que puisque le débat est en train d'arriver, où on dit non mais on veut de l'humain, et on entend déjà des petites voix qui disent non mais ça sera qu'un outil. L'IA, vous savez, ça ne sera qu'un outil entre les mains des créateurs. Ah, donc ce que ces types-là appellent un outil entre les mains des créateurs, si c'est ce que j'ai vécu, c'est-à-dire un incompétent qui a juste un plan auprès d'une production, qui tape un prompt, pour ensuite leur filer un sous-fifre comme moi, pour se faire mousser en disant « Regardez, c'est formidable, il y a de l'humain, vous avez vu comment c'est bien ?» Alors, peut-être que, en l'occurrence, je serais apparu dans les statuts d'arrangeur, mais enfin, on a eu ce débat à l'époque avec Petit en réflexion, c'est ce que je disais, par rapport, c'était d'humain à humain. Là, on a quelque chose d'inédit. Bon, tout ça est inédit, mais voilà encore dans la déclinaison de ce nouveau rapport à la technologie, allons-nous accepter d'être les arrangeurs des ordinateurs ? Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est la question que je me suis posée. Je dis, mais je vais quand même pas arranger une merde qui a été faite avec un prompt à l'ordi. C'est insupportable. Éthiquement, je ne peux pas. Tout m'interdit de faire ça. Un truc que je suis capable de faire. J'avais dit, écoute, si tu veux que je te compose un truc, je le fais. Si toi, tu veux composer, on s'y met ensemble. Envoie-moi ton score. Envoie-moi tes partitions. Tiens, envoie-moi tes partitions. Puis à la main, s'il te plaît. Hein. Voilà. Mais le mec était incapable de faire ça. Je dis, mais si c'est pour m'envoyer un prompt, je le fais moi. Donc, on va avoir simplement des espèces d'intermédiaires qui vont être comme des parasites pour récupérer des plans et mettre une espèce de tampon artificiel avant que ça arrive entre les mains des techniciens. Et tout ça pour au final dire, ah, mais non, mais il y a de l'humain, hein. C'est pas que c'est juste un outil, il n'y a pas que de l'IA, il y a eu des gens, puis des gens compétents. Donc, au final, nous pourrions devenir de simples cautions artistiques, de simples cautions humaines, de simples cautions culturelles. Et encore une fois, ça me fait, peur, ça me fait pas peur, mais je vois vraiment pas ça d'un très bon œil, et je trouve que, en tout cas, j'en parle, voilà, je suis sans doute pas le seul à avoir vu ça venir, mais il faut vraiment que les gens dont c'est le métier, alors je pense évidemment à ceux qui nous défendent, la SACEM, mais aussi les pouvoirs publics, voilà, tout ce problème se ramifie, il est assez complexe, et ça fait partie des types de, comment dire, des cas de figure qu'on va avoir, on va se dire, bon, quelle est la place du créateur là-dedans, comment on le défend, est-ce qu'on accepte ça, comment est-ce qu'on les gens sont rémunérés, voilà ce que je voulais vous dire. Très curieux de vous lire sur ce sujet du rapport de l'homme à l'IA, notamment dans le cadre des arrangements ou du travail en studio. Comme d'habitude, vous pouvez commenter, liker, vous abonner et portez-vous bien.